Bonjour à tous, je crois qu'on va pas perdre trop de temps, on va commencer. Je vous remercie d'être venu écouter donc Hao Jingfang. Simplement quelques mots un petit peu pour la présenter et puis pour recontextualiser un petit peu aussi son écriture. Parmi vous, certaines et certains ont peut-être assisté déjà à la table ronde hier sur la science-fiction asiatique. Alors, davantage qu'asiatique, il était surtout question de la science-fiction chinoise et taïwanaise, donc la science-fiction sinophone, qui reste encore assez parcellaire, très embryonnaire en langue française. Quelques textes commencent un petit peu à nous parvenir. Le problème à trois corps qui donc chez Actes Sud, dans la collection Exofiction, en est un exemple. Plusieurs romans taïwanais, dont un auteur Gao Yifang qui est également présent sur le salon. Et Hao Jingfang, dont une nouvelle a été traduite dans l'anthologie des Utopiales, publiée chez Actu SF. La nouvelle en question s'appelle Pékin Origami. On aura l'occasion de reparler de, enfin, a été traduite par ce titre-là. On aura l'occasion de reparler un petit peu de cette nouvelle. Simplement pour vous dire quelques mots sur Hao Jingfang, et puis après, je lui poserai quelques questions. Puis je pense qu'on aura un petit peu de temps à la fin pour vous donner la parole. Hao Jingfang fait partie de cette jeune génération d'écrivains de science-fiction chinois, né dans les années 80. Extrêmement prolifiques, extrêmement intéressants, qui ne sont donc pas du coup de la même génération que Liu Cixin, l'auteur du Problème à trois corps, dont le premier tome avait reçu pour la traduction anglaise le prix Hugo en 2015. Hao Jingfang, pour sa part, avait reçu le prix Hugo aussi dans sa traduction anglaise en 2016 pour la meilleure nouvelle, donc ce fameux Pékin origami ou Pékin plié. C'est une génération qui, elle va sans doute nous en parler, un rapport un peu particulier à la science-fiction, puisque dans les années 80, la science-fiction chinoise était encore assez embryonnaire, pour des raisons à la fois historiques, politiques, éditoriales. Donc peut-être une des premières questions que je vais lui poser, c'est un petit peu de savoir voilà, ce qui l'a poussé à écrire de la science-fiction. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une œuvre qui l'a particulièrement marqué, inspiré, etc. Puis je pense qu'elle nous parlera voilà, de ce phénomène un peu générationnel. Pourquoi est-ce que tant d'auteurs aujourd'hui nés dans les années 80 commencent à écrire de la science-fiction ?
C'est quand même la première question qui a été posée par beaucoup de 80-后 de Chinois de la science-fiction. Vous avez lu quoi que vous avez lu dans votre jeunesse ? Qu'est-ce qui vous a donné de la science-fiction ou de la science-fiction ?
其实我自己童年时代读过最早的小说，科幻小说真的是凡尔纳的小说，《八十天环游地球》《海底两万里》，这个在当时中国的小学生里面都还是非常的流行，哪怕今天中国小学生也还是会读凡尔纳，是我们的一些必读的经典，也是我们最早对科幻有了解的一个入口。
Alors moi, quand j'étais petite, les premiers romans de science-fiction que j'ai lus, c'est ceux de Jules Verne. Donc Le Tour du Monde en 80 jours, 20 milieux sous les mers. Et encore aujourd'hui, ce sont des romans que toutes les générations de Chinois lisent, y compris même à l'école primaire ou au collège.
那个时候中国还有一些杂志，例如叫做《少年科学画报》，里面会有一些连环画。另外中国自己的科幻作家从八十年代开始写作，也比较多是写给一些青少年的这个科普类型的科幻小说，像郑文光先生的小说，还有其他小说也是《宝葫芦的秘密》，也是关于这个青少年儿童的一些科幻作品，这个都是在我们上小学的时候给我们很大影响。
Alors, à côté de ça, à côté des romans traduits, il y avait aussi des magazines de science-fiction, donc en chinois, avec des œuvres majoritairement destinées à un public jeunesse de science-fiction. On était à une époque où la science-fiction avait davantage un but pédagogique, didactique, de vulgarisation scientifique. Et en primaire, au collège, c'était des récits qu'on adorait lire, voilà, mais souvent sérialisés, parfois sous la forme de bandes dessinées également.
那你什么时候开始写科幻？有没有什么就特别遇到什么样的重要事件，或是看到什么样的书，让你觉得哎，我自己也可以写科幻
？Donc la question sur quand et pourquoi éventuellement elle a commencé à écrire de la science-fiction？
我在高中的时候也看了一些这个中国的科幻杂志，最著名的一本是《科幻世界》。在那个时候呢，读到当时中国新兴起来的一批科幻作家，也包括现在很有名的刘慈欣， 就是从九十年代开始写作的。他我在高中时候读他的作品，他给我很多的影响。其他的也读了一些翻译作品，包括美国的像阿西莫夫写的《基地》系列，我很喜欢这种关于宇宙的想象，是我最早对科幻写作产生兴趣。我后来到了大学，我的专业是学物理，这个也让我开始想要去写科幻。
Alors c'est vrai qu'au début des années 90 en Chine, par, toujours par le biais des magazines, notamment le magazine Le Monde de la Science-Fiction, on commençait à émerger des voix nouvelles, parmi lesquelles celle de Liu Cixin dont on a parlé tout à l'heure, qui m'ont beaucoup influencé. Et puis également la traduction de nombreuses œuvres de science-fiction étrangères, notamment toute la série Fondation d'Asimov qui m'a beaucoup marqué à cette époque.
然后我大学的时候学的专业是物理，后来研究生读了天体物理，是因为我从小到大都对关于宇宙的知识很感兴趣。我大概是从大学四年级开始写科幻小说，最早只写一些短篇，写比较轻型的小说，但是我很喜欢去想象一些很遥远的这个科幻的场景。
Et donc à l'université, j'ai fait des études de physique, puis en master d'astrophysique. Donc évidemment, ça a également suscité un grand intérêt pour l'imagination de l'univers, de l'espace. Et j'ai commencé véritablement à écrire de la science-fiction en fin d'année en fin de licence, dernière année de licence, d'abord avec des nouvelles où j'imaginais des histoires qui se passaient dans l'espace lointain. Et donc, Rao Jingfang l'a dit, donc elle a une formation de physique à l'université, puis d'astrophysique en master, et alors un changement un peu étonnant de macroéconomie pour le doctorat, un doctorat en macroéconomie, et elle travaille notamment dans un think tank chinois autour des questions macroéconomiques. Et donc une question qu'on pourrait lui poser, c'est comment est-ce qu'elle arrive finalement à concilier, ou alors est-ce que c'est conciliable, des activités à la fois un peu de planification économique, enfin de réflexion sur dans ce domaine, avec un parcours à la fois en astrophysique et celui d'un écrivain. 那因为你提到就是大学硕士念的是天体物理，那博士又是经济研究，那你怎么样在这种三种身份，就是天体，然后经济又是写作者，怎么样去进行，还有什么样的互动？
其实我觉得写作者这个身份是一个能够串联起其他任何职业和学科学习的一个身份，因为在写作中你不可能只写关于写作的事情，你会写关于这个世界的方方面面，关于宇宙，关于地球，关于人生，关于社会，写每一个方面的事情。在这个里面其实有很多的背景知识是有所帮助的，所以我自己的写作其实是会用到我原来在物理学在经济学中所学到的知识作为背景，所以我自己觉得这三个身份并不矛盾，而且不同的学科都可以帮助到我的写作。
En réalité, l'avantage de cette triple identité, c'est qu'elle n'est absolument pas contradictoire, et au contraire, ce sont ces identités-là qui vont nourrir mes histoires, à la fois en termes d'astrophysique, pour la science-fiction, mais également les gens que je rencontre, les connaissances que j'acquiers également dans le domaine de l'économie, qui vont influencer mon écriture. Et c'est à travers ces différentes connaissances, un peu glanées dans différents domaines, que ça va enrichir mon écriture. Alors, puisqu'on en parle un petit peu, et on va passer un petit peu aux œuvres de Rao Jingfang, simplement quelques exemples. Alors, je vous ai mis juste les visuels des couvertures en langue chinoise. Vous avez à gauche un roman qui donc raconte un peu une histoire qui se passe entre la Terre et Mars, avec donc deux sociétés qui communiquent, mais deux sociétés différentes humaines sur Terre et sur Mars, en racontant l'histoire d'enfants. Des errements identitaires des enfants de Terre envoyés sur Mars et vice-versa. Vous avez également un recueil de nouvelles de science-fiction également à droite. Ça, c'est donc Les profondeurs de la solitude, qui est le titre d'un autre recueil de nouvelles, qui, à ma connaissance, sera bientôt traduit en français. Enfin, quand je dis bientôt, je ne sais pas exactement quand. Je crois que les droits ont été achetés par Fleuve Édition. Et dans laquelle on a donc une nouvelle, celle dont j'ai parlé tout à l'heure, Pékin plié, qui fait également partie, qui a été traduit à l'occasion du festival dans le recueil des Utopiales, Pékin plié, et qui est un bon exemple de ce mélange un petit peu, non pas des genres, mais des réflexions, Et donc je vais demander à l'auteur un petit peu de nous parler de cette nouvelle que vous pourrez, si ce n'est pas encore fait, découvrir dans le recueil des Utopiales.
那因为提到就是不同的领域，那刚好其实北京折叠也是可以代表这种很多不同领域的总和。那是不是可以请你谈一下这个短篇小说的故事，还有它的灵感来源？
北京折叠这个小说，它的我在这个小说里面其实是构造了一个未来城市，一个未来北京，里面居住着8000万人口，其中呢500万人居住在第一空间，他们可以有完整的24小时时间。然后这个城市是可以翻转和折叠。当第二空间的人出来活动的时候，有2500万人口，他们占据了剩下的16个小时。当他们又这个第二空间折叠回去之后，第三空间翻转出来，第三空间里面有5000万人口，他们只能在晚上活动出来活动8个小时，做的工作主要是垃圾处理的工作。我就是构造了这样的一个城市，不同的人口所占据的时间和空间都是完全不一样的。
Alors cette nouvelle, elle parle de, donc d'un Pékin un peu futuriste, dans laquelle 3 populations vivent de manière séparée, à la fois spatialement et temporellement, avec une ville qu'il est possible de plier et de faire pivoter. Et dans lequel coexistent donc 3 espaces. Un premier espace, on va dire l'espace un peu de la population la plus favorisée, les nantis, qui peuvent donc jouir de ce premier espace pendant 24 heures. Puis la ville pivote et laisse place au deuxième espace, d'une population, on va dire, plutôt de classe moyenne, qui va pouvoir profiter et jouir de la ville pendant une période de 16 heures. Et enfin, un dernier espace où la population va uniquement vivre les 8 dernières heures restantes de la nuit. Évidemment, cette population est la plus nombreuse. C'est une population qui est majoritairement au chômage, remplacée donc des anciens ouvriers remplacés par les machines, et dont le travail principal est de s'occuper du recyclage des déchets des 2 premiers espaces.
这三个时间空间，他们就是在轮转，在循环。每一个时空里面的人都并不知道另外一个时空里的人是过着怎样的生活。然后我这个故事是写第三空间的一个人，一个垃圾工，为了自己的女儿，然后去铤而走险，去到第二空间、第一空间，去了解到了一个他全然不知道的另外的一个新世界。
Et alors ce sont des mondes qui ne se connaissent pas, ou en tout cas qui connaissent l'existence de chacun, mais qui n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe et comment les gens vivent dans les autres espaces. Et donc mon histoire part d'un personnage qui travaille dans le recyclage des déchets du 3e espace, qui, pour financer l'école de sa fille adoptive, va aller faire une commission, est envoyé en fait d'abord dans le 2e espace, puis dans le 1er espace, donc chose assez dangereuse, pour gagner un peu d'argent.
这个小说呢，我的灵感来源其实是来源于现实的北京，因为在北京中，我确实和一些生活很困难的家庭去聊，他们大部分是移民到北京的工人，我们叫做农民工，他们在北京里面没有固定的身份，然后生活得非常艰苦，他们的孩子也很难入学。另外就是北京有大量的学生和白领工作者，此外北京还有一小部分人，他们非常的有权力去掌控这个社会的资源，包括企业家还有政府官员等等。然后这些不同的人，他们的平时在的生活是完全没有交集，甚至是有些时候都意识不到还另外一个群体的存在。所以我当时想把这些我看到的场面写出这种感觉写出来，就有了《北京折叠》这个小说。
Ce qu'il n'y a pas à faire pendant que vous avez mis une table ronde. Donc, sur la source d'inspiration de cette histoire, elle vient de mon expérience personnelle dans la ville de Pékin, où se trouve. On peut aussi arriver à identifier 3 populations différentes. Celle qui serait celle du 3e espace, ce sont ceux qu'on appelle en chinois les Mingong, c'est-à-dire des migrants d'autres régions de la Chine, généralement des régions plutôt agricoles ou en tout cas assez pauvres, qui sont à la base paysans et qui viennent dans les grandes villes pour chercher du travail et dont la situation est un peu particulière. Puisque, alors là c'est une petite parenthèse, en Chine vous avez ça fonctionne avec des permis de résidence qui sont aussi des permis de travail. Et donc si vous arrivez dans une ville qui n'est pas votre province d'origine, il est extrêmement dur de trouver un travail et d'obtenir un permis de travail. Et puis c'est également dur, Rodi Yungfang vient d'en parler, pour que les enfants puissent aller à l'école. Donc toute cette population dont la profession est très instable, en fait ce sont souvent des petits boulots, intérimaires, souvent mal payés, constituerait un petit peu cette population du troisième espace. Celle du deuxième espace, ce serait davantage les classes moyennes, donc les étudiants, par exemple, de la ville de Pékin. Et puis le premier espace, toutes ces personnes, évidemment une très grande minorité, mais qui détient la plupart des ressources à la fois politiques et économiques de la ville. Et ce sont trois populations qui, en fait, ne se connaissent pas et qui n'interagissent presque pas entre eux. Et donc c'est ce décor-là qui m'a inspiré l'écriture de cette histoire.
不过这我的小说其实并不是一个现实主义小说，还是一个科幻小说。原因就是我在畅想在未来这样的一个时代，如果这个机器大量的取代了一些底层的劳动力，会发生什么情况？因为在今天，我们每一个人的生活还是需要大量的这些服务人员或者是工人，但是如果说未来的这个机器自动化把他们的很多的职业很多的工作都取代了，那么这部分人口将何去何从？所以我就是构造了一个隔离的世界，这个政府给他们建立了这样的一个隔离的空间，让他们只有在夜晚这一小段时间才能出来活动。所以这个小说是相对来讲比较的描绘了一个阴郁的未来，但是我就是在想，那么这样的一个很贫困的劳动人口，未来这个时代应该怎么办？
Évidemment, c'est pas un roman réaliste et qui a pas vocation à l'être, ça reste un roman de science-fiction. La question que je me suis posée en écrivant le roman, puisqu'il se situe dans un futur, dans le futur de la Chine, c'est qu'aujourd'hui encore, on a besoin de ces ouvriers, on a besoin de gens qui puissent travailler manuellement, mais qu'est-ce qui se passerait si les machines étaient en mesure de remplacer ces ouvriers? Et donc comment est-ce qu'une ville pourrait ou essayerait d'arriver à gérer une population assez importante, et notamment ces personnes qui auraient perdu leur emploi suite au remplacement par les machines. Donc c'est comment essayer de, en tout cas du point de vue de la ville, résoudre ce problème. Et donc ce qui se passe dans la nouvelle, c'est donc que la ville essaye de régler ce problème de façon temporelle, en utilisant la nuit, enfin en tout cas en utilisant plusieurs périodes des différentes journées pour contrôler la population.
我先讲法文好了。Cette nouvelle donc a eu le prix Hugo en 2016. Elle a suscité beaucoup d'intérêt aux États-Unis, mais également en Chine, par retour un petit peu des États-Unis. Peut-être une question sur les interprétations qui en ont faites. Comme vous avez pu le comprendre, c'est une nouvelle qui est quand même assez politique. Peut-être un petit peu sur la réception de cette nouvelle à l'étranger, mais également en Chine.
那因为这个短篇小说受到了雨果奖，那像秦观关于他的接受呢，就是在中国跟在国外，应该也受到不少的关注还有评论，那你怎么看？
在国内和国外，大家的关注点其实不是太一样。在美国的时候，很多人都在谈论说，哦，这个里面谈论的这个问题是我们都在面对的这个机器取代人，然后这个问题是非常非常的普遍。另外美国的一些读者跟我讲说，这个里面一个贫困的人为了他自己的孩子上学这件事，他们也非常能够理解那种感情。在中国的话，可能更多的读者会关注到这个里面的一些这个政治管制的部分，就是这个对于人口的一些这个行政管制，然后一些政治制度的部分会关注的比较多一点。
Évidemment, les réceptions sont un petit peu différentes et les lectures qui en sont faites diffèrent entre donc les lecteurs étrangers qui ont pu lire la nouvelle et les lecteurs chinois. Pour ce qui est des États-Unis, par exemple, les retours un petit peu que j'en ai eu, les lectures qui en sont faites, c'est le côté un peu universel de l'histoire, à savoir qu'est-ce qui se passerait si effectivement les machines remplaçaient les ouvriers et comment est-ce qu'on essaierait de trouver des solutions. Et également cette idée d'avoir du mal à finalement à trouver des écoles quand on est... disons, un très défavorisé, quand on a évidemment un métier qui ne suffit pas pour payer les études de ses enfants. Et pour ce qui est de la Chine, les lecteurs y ont davantage vu une critique, ou en tout cas une métaphore du système politique actuel, de la manière dont l'État, dont les mairies, donc les gouvernements, on va dire plus locaux, contrôlent la population, quelles barrières administratives sont posées et fonctionnent ou non pour gérer les flux de population.
那我想请问，那这个短篇小说竟然提到的是就是政治管制，那在中国有没有遇到什么就是可能有一些人就会批评或是一些人的不满？
Peut-être puisque cette nouvelle parle d'un système politique, propose une critique du système politique, peut-être savoir s'il y a eu des réactions au contraire négatives concernant cette nouvelle。
我这个小说本身写的是相对来讲比较中性，我就是写了这样的一个城市，然后但是并没有肯定没有赞扬这个城市，但是也并没有推翻这个城市，我就是写了这样的一个城市的存在，以及这个城市里面各种不同的个体，他们的一些个人的喜怒哀乐。但是呢，读者读了这个故事以后，其实是有很多各种各样的评论，不管是批评的，还是这个讽刺的，还是怎样的，就是这些都是读者个人的评论。当时也有美国的读者问我说，你为什么不在这里面写一个像革命这样的事件？我自己会觉得我宁愿写一个中性的这样的一个城市的存在，一个舞台，而把这些评论这些引申留给读者，每个人都有不同的看法。
En réalité, de mon point de vue, j'écris une histoire davantage neutre, ou en tout cas qui laisse la possibilité à différentes interprétations. Effectivement, j'ai reçu des critiques ou des lectures différentes. Aux États-Unis, on m'a par exemple posé la question de savoir pourquoi est-ce que j'avais pas, puisque l'histoire ne propose pas en fait une révolution, par exemple, ou une révolte du troisième espace, pourquoi est-ce que j'en ai pas parlé ? Et je leur ai répondu que je préférais laisser la possibilité à différents lecteurs d'avoir leur lecture et imaginer ce qui pourrait advenir dans un tel monde. Alors cette nouvelle, elle sera également adaptée au cinéma. En tout cas, je crois que les droits ont été achetés par une maison production, je crois, américaine. Donc peut-être poser la question à Rod Jinfan pour qu'elle nous en dise un petit peu plus, c'est comment est-ce qu'elle peut envisager finalement une adaptation au cinéma de cette nouvelle.
因为好像这个短篇小说也会改编成电影，这个版权好像卖出去了，那是不是可以谈一下这个计划，还有你的看法？
这个电影我是把它的版权卖给了一个独立导演，这个导演他之前拍过一个长篇，参加过柏林电影节，我蛮喜欢这种独立导演，他有一定有自己的思想性和艺术性的。这个导演他现在是和一个美国的制片公司在合作，目前还处在这个剧本阶段，这个导演会自己写剧本，我对于他们的目前的工作进展都一直还是很满意的。到时候可能也会有这个中国的公司去介入这个片子，但是主要的这个制作工作会是美国的一个公司去做。
Alors effectivement, en fait, les droits ont été vendus à un réalisateur américain indépendant dont un des films avait été sélectionné pour l'Ours d'Or à Berlin. Je ne crois pas qu'il ait remporté le prix, mais il avait été donc parmi les films sélectionnés. Ils sont en train, donc le film sera produit par une maison de production américaine. Ils en sont encore à l'étape de l'écriture du scénario. C'est ce réalisateur qui va écrire le scénario. En me consultant régulièrement, je suis assez satisfaite pour l'instant de ce processus. Des compagnies chinoises vont intervenir à un moment donné dans le processus du film, mais pas au niveau du scénario, simplement peut-être les effets spéciaux, etc. Peut-être une question, du coup, est-ce que l'histoire se passera bien à Pékin ou pas ?
Là, du coup, je vais faire un peu de Beijing, moi.
这个其实现在还没有决定。这个一种方案是说，就是叫做北京折叠，然后一切的场景都是北京，然后演员也都是这个中国人。另外一个方案就叫做折叠城市，这个折叠城市呢，就是一个虚拟的城市，它反映的就是在未来，然后有大量失业工人这样的一个城市，它可能是一个世界背景的，也用这个世界的演员。现在制片方没有决定用哪种方案，因为其实一个纯在中国场景下中国演员这样的一个科幻电影到底能否成功，其实之前从来没有成功案例，所以大家都比较谨慎。
Pour l'instant, c'est encore en réflexion. Il y a deux projets parallèles qui sont en réflexion. Un projet qui serait effectivement de situer cette histoire à Pékin avec des acteurs chinois, comme dans la nouvelle où les personnages sont tous chinois. Et puis un deuxième projet d'une ville imaginaire. Donc le titre s'appellerait peut-être Ville Origami ou Ville Pliée, davantage que Pékin Plié ou Pékin Origami, et qui serait quelque chose de plus universel avec des acteurs qui ne seraient pas forcément chinois. La question qui se pose pour situer ce film à Pékin, c'est que pour l'instant, en tout cas, assez peu de films de science-fiction chinois ont eu véritablement du succès, et donc il reste assez prudent sur la question. Alors évidemment, on a beaucoup parlé de cette nouvelle, elle ne résume pas à elle seule toute l'écriture de Hao Jingfang, qui, au-delà des recueils de nouvelles et des romans de... recueils de nouvelles de science-fiction et des romans de science-fiction qu'elle a écrit également ce qu'on appelle des essais, des sanwen en chinois, et notamment sur un voyage en Europe, donc quelque chose qui n'est pas fictionnel en tant que tel. Et on remarquera, si vous avez l'occasion, quand l'ouvrage sera traduit en français, « Des profondeurs de la solitude », qu'on n'est pas forcément toujours dans une science-fiction qui porte une critique sociale. Donc peut-être justement comment elle se situe, à la fois par rapport aux genres science-fictionnels et par rapport à l'écriture. 因为不是你的每篇小说都是有那种社会意识的或是那么强的，甚至你还写过散文，就在欧洲旅游的散文，那你自己怎么看科幻还有你自己的书写？
就是我自己其实感兴趣的书写的题材是非常多的，关于社会制度呢只是其中的一个方面，我写过这么几个作品关于社会制度，但并不是全部。我其他的非常感兴趣的话题，尤其是有关于人的自我意识，我有时候会写这个人去探讨什么是自己的自我意识的由来，然后也会去很感兴趣的关是人和这个宇宙的关系，人在这个宇宙里面是不是孤独的，这个我们如何看待自己的文明等等，所有的这些题材都是我非常感兴趣的，因为它都是关于人本身的探索。我自己也写现实主义长篇，也是关于一个中国年轻人在改革开放过程当中的成长经历，也是去年出版的，所以未来其实我写作的话题也还是蛮多样的。
En fait, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent, que je vais essayer d'explorer à travers la science-fiction. Des choses qui m'intéressent, par exemple, c'est la relation d'un... En tout cas, les réflexions identitaires qu'un individu peut avoir. Également, la réflexion entre l'individu à l'échelle de l'univers. Le titre, vous voyez, donc, « Les profondeurs de la solitude ». Est-ce que l'humain est seul dans l'univers? Comment est-ce qu'on perçoit la civilisation humaine au sein de l'univers? Et puis j'ai également écrit des romans ou des nouvelles qui n'appartiennent absolument pas au genre de la science-fiction. Le dernier roman en date, c'est l'histoire d'un adolescent qui grandit pendant la période des réformes politiques en Chine, donc à la fin des années 70, début des années 80, et donc pour mes projets d'écriture futurs, là encore, je ferai appel à plusieurs thématiques et pas nécessairement à la science-fiction.
我觉得我自己选择写科幻还是现实主义的一个理由是，看我想表达的这个主题是探索当下的这个一些问题、一些话题，还是探索的一个更为抽象的问题。像我写过一个科幻小说，是关于就是我假设世界上的其他人都不知道为什么消失了，只剩下一个人在守护着这个整个的地球文明，他希望地球文明的所有的记录都不要消失。我就是很想探索，像如果一个只剩下一个人来守护地球文明，他会做什么？这种问题因为是比较抽象，是想象的， 所以它很适合用科幻小说来写。但是另外一些主题，我会探讨中国现在当下可能年轻人面对的心理问题、生活问题，那么我就会写现实主义小说。
C'est aussi la thématique qui va dicter un petit peu le choix de l'écriture. Pour des questions très, on va dire, plus abstraites, plus métaphoriques, je vais davantage utiliser la science-fiction. Un exemple avec une nouvelle où j'imagine que pour une raison X, tous les humains ont disparu de la Terre sauf un individu chargé de protéger le patrimoine de l'humanité. Et donc je m'interroge à la fois sur sa solitude, mais également ce qu'il choisirait de garder. Donc évidemment, c'est un sujet plus abstrait que la réalité contemporaine. Et c'est un sujet qui, justement, peut être très intéressant par le truchement de la science-fiction. Quant à d'autres sujets, par exemple, quand j'écris des nouvelles qui n'appartiennent pas forcément à la science-fiction, je vais parler, par exemple, des problèmes à la fois psychologiques, matériels rencontrés par les jeunes chinois d'aujourd'hui. Alors, un autre intérêt, quelque chose de très intéressant, qui là n'est pas propre qu'à Rao Jingfang, il y a toute une littérature de science-fiction qui se développe aussi sur le net en Chine. La cyberlittérature est très, très, très lue en Chine. Pour vous donner simplement quelques chiffres, les jeunes Chinois, alors souvent des jeunes Chinois, mais pas forcément que des jeunes Chinois, consultent davantage ou lisent davantage de cyber-nouvelles ou de cyber-romans qu'ils ne consultent leur mail ou leur banque en ligne. Là, il y a quelques jours, le nombre de cyberlecteurs, donc de littérature, on ne parle pas des réseaux sociaux, c'est vraiment de la littérature, a atteint le chiffre de 350 millions de lecteurs. Donc bon, c'est la Chine, certes, mais ça représente quand même un lectorat assez important. Et Rao Jingfang participe aussi de cette cyber-écriture. Je vous donne un exemple ici. Donc c'est une plateforme de cyberlittérature en Chine. Et Rao Jingfang a proposé cette nouvelle, donc le titre, on pourrait le traduire, c'est assez grossièrement traduit, mais le début de la dynastie des Han, qui est une uchronie. Donc c'est une réinvention en fait de ce qui... Parce que je ne sais pas si parmi vous certains étaient là pour la table ronde sur l'uchronie juste avant. Donc une réinvention de l'histoire à travers voilà, un point de divergence. Donc à l'époque de la dynastie des Han, entre moins 200 avant Jésus-Christ et plus 200 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle est ce qu'on appelle en chinois une nouvelle interactive. C'est-à-dire qu'elle laisse la possibilité au lecteur de choisir le développement de l'histoire. Ça ressemble un petit peu à, si vous connaissez, et certainement plusieurs d'entre vous connaissez, les livres dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que vous avez un choix. Alors là, évidemment, le fait que ce soit sur Internet, avec une plateforme numérique, permet encore plus facilement de choisir. C'est-à-dire qu'on ne va plus aller vers un paragraphe ou une page, mais on va faire un choix. Et donc, vous pouvez imaginer que cette nouvelle peut s'étendre avec des univers très différents. Et donc, l'histoire peut évidemment changer en fonction du choix du lecteur. Donc, peut-être lui demander un petit peu de parler de ces nouvelles littératures qui se développent sur Internet et de cette nouvelle mode ou de cette nouvelle tendance des récits interactifs.
那就是简单的介绍一下，就是中国网络文学里面的一些新的文学倾向，包括互动小说。那是不是可以请你谈一下？
好的，这个其实是一个非常有意思的尝试，它并不是我一个人的创作，而是我自己写了一个开头，然后是一个小组来完成创作，后来又会有更多的网友参加进来。我自己大概写了一个开头，里面留下了四个不同的选项，就是历史的四种分支的可能性。后来我们这个小组里面总共有五个作者，他们就顺着这四个不同的可能性又往下写，他们每个人都写了很多分支，等到他们写完的时候，这个历史就已经有55个可能的结果，这个分支了，然后把他们的这些放到网上之后，又会有新的网友接续下来写，现在有多少可能性我已经不知道了。在我们看来，这个就是在去写一种平行宇宙中的历史，我们在探索的就是历史的不同可能性。如果不是这个国王，而是另一个国王当上了国王，那么对于整个的中国历史会有发生怎样的改变？然后如果有一些战役是不是这方胜了，而是那方胜了，那么整个的历史会怎样改变？我自己觉得这样的一个探索是很有趣的。
Alors c'est un projet effectivement très intéressant et l'écriture interactive est même poussée plus loin que la simple interaction du lecteur puisque c'est une histoire que j'ai commencé à écrire mais que d'autres ont fini, c'est-à-dire avant même qu'elle ait été publiée officiellement en ligne, j'ai commencé à l'écrire puis j'ai laissé 4 choix Et donc, une petite équipe d'écrivains, un petit groupe d'écrivains a donc écrit la suite et a développé, donc on a développé ensemble 55 issues ou 55 fins différentes. Et une fois qu'elle a été mise en ligne, les lecteurs, en fonction de leur choix, vont parvenir à des fins différentes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que souvent sur ce type de plateforme de cyberlittérature, certains jeunes auteurs ou certains auteurs plus expérimentés, déjà publiés, vont écrire des suites. Et il y a déjà 6 ou 7, bon, pas volumes parce que ce sont des nouvelles, mais en tout cas 6 ou 7 autres histoires issues de cet imaginaire qui ont été écrites. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore combien de fins possibles à cette histoire, mais c'est toujours dans cette idée un peu uchronique de s'interroger sur qu'est-ce qu'aurait pu être l'histoire, donc l'idée un peu de monde parallèle, si tel roi avait été nommé ou avait été le fondateur d'une dynastie, si lors d'une guerre l'armée défaite avait été vainqueur, etc. Donc c'est une nouvelle forme d'écriture interactive et qui pousse véritablement l'idée des mondes parallèles à son paroxysme.
就是我自己个人其实是非常在读历史的时候就经常会去想，有的时候历史中会有一些这个偶然的成分，但是对后世的影响就非常大。像我们就会想说，这个英国和法国其实在中世纪的时候有很大的相似性，但是英国在这个大宪章之后，他们的内战的情况使得他们后来走上这个君主立宪的道路，而法国一直是后来就有一个比较强大的君主，然后呢就大革命之后又有拿破仑，然后所以今天是这样的一个制度，就是说历史中的一些偶然性使得今天就会非常不一样。那对于中国也是，中国也是一个有5000年历史的悠久历史的国家，我们就会经常想，那王朝过程当中如果有哪些情况不一样了，也许今天我们的整个社会制度都不太一样，这个是也是中国科幻里面其实经常会触及的一个话题。
Alors moi, ça m'intéresse particulièrement ce genre d'idée. Comment est-ce que l'histoire aurait pu être écrite autrement? Alors évidemment, il y a aussi ces questions qui se posent dans le cadre de l'histoire européenne. Au Moyen-Âge, peut-être que les différences entre la France et l'actuelle Angleterre n'étaient pas aussi marquées que ça, mais avec des événements parfois du hasard font que les histoires se développent de façon extrêmement différente. La Révolution française, par exemple, Napoléon, ce qui fait qu'aujourd'hui, France et Royaume-Uni ont des systèmes politiques également très différents. Les mêmes questions, évidemment, se posent dans l'histoire de la Chine, qui est une histoire millénaire. Et beaucoup d'écrivains de science-fiction aujourd'hui en Chine vont essayer de réexplorer un peu cette histoire en s'interrogeant si un événement, peut-être dû au hasard, avait eu lieu différemment. Comment est-ce que on en serait aujourd'hui? Est-ce que le système politique serait le même, etc. 那就提到这种新书写，也许我们可以问你关于新书的计划的问题。Donc on vient de parler des nouvelles écritures un petit peu, peut-être une question autour des nouveaux projets ou des futurs projets de Hao Jingfang。
我今年会出版一本小说集，是整个小说集都是关于人工智能，然后其中有6篇中短篇小说，还有2篇我自己写的关于人工智能的一些思考。因为从去年到今年，人工智能这个话题非常的热，有很多人来找我讨论，我也在这个过程中自己有了比较多的故事灵感，所以这个就集合成为一本这个关于人工智能的小说集。这个月刚刚在中国出版。
Alors, ce mois-ci va paraître en Chine un recueil de nouvelles de science-fiction, toutes tournées autour de l'intelligence artificielle. Donc avec des novellas, donc des nouvelles un peu plus longues, des nouvelles plus courtes. Ces dernières années, on m'a beaucoup sollicité pour parler justement de cette question de l'intelligence artificielle pour des conférences, etc. Et ça a suscité beaucoup d'inspiration pour des histoires. Et donc ce mois-ci va paraître ce recueil autour de l'intelligence artificielle.
明年我会争取写完一本长篇新的长篇小说，是关于文明起源。因为就我也确实一直都对历史很感兴趣，这次我可能会探讨的是大概3000多年之前中国有青铜器时代，甚至是更久远的时候，就是中国文明它的起源的一些故事，也会涉及到世界上 其他文明在三四千年之前文明起源，因为我自己一直非常感兴趣，就是从原始人的这种原始社会到现代人的这个文明社会，其实中间是有很大的飞跃过程，是空白，现在其实研究也不是很清楚。那么我觉得这就给了科幻小说留下了书写的空间。我现在已经写了大纲，希望明年能把它写完。
Alors un roman pour lequel j'ai déjà une idée de la trame narrative qui paraîtra sans doute l'an prochain et qui va s'interroger sur la genèse de la civilisation. Donc je vais essayer de remonter à 3-4 000 ans en arrière en Chine, à l'époque de l'âge de bronze, et des facteurs en fait qui ont enclenché peut-être un processus de civilisation. Donc évidemment il sera aussi question des autres civilisations du monde à la même époque. Aujourd'hui on a encore beaucoup de points un petit peu obscurs en fait sur l'histoire de Chine. Comment est-ce que de société plutôt primitive on en est arrivé aujourd'hui à une société de la communication? Et donc tous ces points obscurs, toutes ces zones d'ombre laissent évidemment beaucoup de place à l'écriture science-fictionnelle. Alors peut-être le temps passe un petit peu, je voudrais peut-être aussi vous laisser éventuellement poser des questions. Donc si vous avez des questions à poser à la fois sur l'auteur ou sur la science-fiction chinoise. Ou alors si vous arrivez à parler fort peut-être.
在中国有一个制度叫做户口制度，这个制度是被人讨论的很多的。然后户口制度呢，它会把人按照他的这个出生，就是他会登记你所在地，然后很多的公共服务，包括教育、医疗和很多购买房子、汽车等等服务，它都跟这个户口制度相关。所以，如果你没有这一个城市的户口，到这个城市来工作，就会有非常多的地方不便。不管是购买房子，还是让孩子上学，还是就医等等，都会有很大的不便。所以这样的话就给这种这个到这个城市来临时做工作的这些人，他们在这个城市的生活就有很大的就非常非常的不舒服。这个可能是你说的这个身份上的问题。
Alors la question du statut, en Chine, il y a effectivement un problème très similaire qui n'est pas uniquement lié au statut, on va dire, professionnel ou du code du travail. C'est donc les fameux permis de résidence dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous assignent en fait à une région particulière. Et dès que vous changez de région pour trouver du travail, et si vous n'avez pas ce fameux permis de résidence, tout devient extrêmement compliqué en termes de droits sociaux, en termes de l'éducation pour vos enfants, en termes également de médecine, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément accès aux hôpitaux publics, donc c'est des frais exorbitants. Et ce statut particulier, en fait, qui généralement, on va en plus dans un sens, c'est-à-dire que c'est les régions pauvres qui rencontrent ce genre de problème quand ils viennent chercher du travail dans les grandes métropoles. Voilà, on a typiquement l'exemple cette illustration, en fait, de population dont le statut est trouble et en tout cas ne permet pas de pouvoir jouir des mêmes droits que les habitants de la ville. Oui.
Oui, j'ai une question. J'ai l'impression que pour les Occidentaux, la Chine, c'est quand même inconnue souvent. Et dès qu'il y a une traduction, on va se présenter sur le livre en
该西方人对中国很陌生，然后会了解很够。那我们看到科幻小说就会马上有一种想要去发现中国精神是什么样，现在中国人怎么想。那你自己可能也会被解读为这种某一个年代的精神的一个代表，那你怎么看？你觉得你可以代表某一个年代？
其实中国我最大的特点就是是个很大的国家，人非常多。中国的很多城市可能比欧洲的一个国家的人都多，所以呢，我觉得中国是非常非常多样化的一个国家。不仅是我自己没办法代表整个的这个时代的年轻人，我相信再来十个人可能也没办法代表，因为确实这个有非常非常多不一样的这个中国人。但我一直确实觉得就是世界对中国的了解还是不太够，就是我很容易只是通过一些符号，比如可能印了一个龙的符号或者是过年的红颜色来知道中国，但是对于中国的当下的人的生活是什么样子的，中国人的这些关切的问题是什么，以及中国的历史、中国的传统文化、传统哲学精神、中国人的最关心的问题等等，确实世界上了解的不多。我有几个朋友在法国这边，他们也是准备做一个这样的一个平台，能够更多的沟通欧洲和中国。
Alors effectivement, comme vous le savez, la Chine est extrêmement vaste. La plupart des villes chinoises ont davantage d'habitants que la plupart des grandes villes françaises. Évidemment, c'est un pays extrêmement divers, donc à moi seul, et même si on était plusieurs à écrire sur des sujets similaires, on n'aurait évidemment aucune vocation de parler au nom de la Chine, ou en tout cas de représenter un esprit chinois. Après, il est certain que les connaissances, parfois, en Occident de la Chine, sont assez parcellaires, avec des fois des grands symboles qui reviennent un petit peu, la couleur rouge, le dragon, le système politique. Il est certain que la Chine est beaucoup plus complexe que ce qu'on en donne à voir. J'ai des amis en France qui vont monter une plateforme en ligne pour justement permettre un petit peu ce type de compréhension interculturelle.
我自己曾经写过一本书叫《时光里的欧洲》，是写给中国读者的，就是从按照年代去介绍欧洲的一些文明中心，然后我也曾经去走访这些地方，把欧洲的这些城市是什么样子的，这些历史有哪些重要的意义写回去，写介绍给中国的读者。未来我还蛮希望在也写一个《时光里的中华》，能够把中国历史文明的很多重要的节点，一些对于后世产生很重大影响的一些文明的地点和时间和这些事件，能够更多的介绍给世界上其他国家。
De mon côté, j'ai écrit, donc on en parlait tout à l'heure, un recueil d'essais de voyage, en fait, de récits de voyage sur l'Europe, donc l'Europe dans le temps, où j'avais envie de parler un petit peu à mes lecteurs chinois des lieux que j'avais visités, de périodes historiques européennes. J'aurais envie un petit peu de faire la même chose pour la Chine dans le temps, pour peut-être présenter à des lecteurs étrangers plusieurs épisodes marquants dans l'histoire de la civilisation chinoise qui permettraient peut-être de combler en partie certaines incompréhensions. Peut-être, je pense qu'on a le temps pour une dernière question.
对，其实日本的就是日本的仅仅说小说的科幻小说的话，可能不像美国的小科幻小说翻译到中国那么多，因为毕竟美国还是最经典的一些科幻小说的作品。但是我们也读过一些日本作家的科幻小说，当时对于大家印象也很深，而且我们也有请 日本的一些作家到中国来交流，但是日本其实对于中国科幻的影响最深的并不是他们的小说，而是他们的动画和漫画。这个我想可能法国这边也有见到过，日本有非常发达的这个动画和漫画的传统，就是有很多经典的动画都是我们从小到大都看的，因为中国自己做动画的技术是完全没有日本好，所以日本动画中的这个像太空堡垒等等很多的这样的一些动画片，对于中国整个这一代年轻人的成长都留下了很深的作用。
Alors effectivement, en termes de romans traduits, par exemple, les romans de science-fiction américains sont beaucoup plus traduits en Chine que les romans de science-fiction japonais. Il y a aujourd'hui de plus en plus de traductions et d'échanges. Des auteurs de science-fiction japonais sont invités en Chine pour dialoguer avec des romanciers de science-fiction chinois. L'influence la plus marquante du Japon dans le domaine de la science-fiction vient moins des romans qu'évidemment des animés et des mangas. Les Français les connaissent aussi très bien. Et ce sont... Alors, plusieurs exemples ont été cités, Akira, mais d'autres, autour de l'influence qu'a pu avoir également ces autres médias, mais toujours autour de la science-fiction, sur les auteurs chinois. Quand on était petit, on regardait également les animés japonais, on lisait des mangas japonais. Évidemment, ça a une importance assez capitale sur notre façon d'écrire. Je crois que malheureusement, peut-être une dernière question, éventuellement, si quelqu'un se sent. Non, sinon je vous invite du coup à aller découvrir donc la nouvelle de Rod Jingfang dans l'anthologie des Utopiales, de suivre un petit peu, je crois que c'est les maisons d'édition Fleuve Édition qui publieront, alors je ne sais pas exactement quand, je ne pourrais pas vous donner la date, le recueil Les Profondeurs de la Solitude, je ne sais pas si ce sera le titre choisi en version française, et puis la science-fiction chinoise qui pour l'instant est encore assez embryonnaire en français, mais qui très bientôt, je pense, sera beaucoup plus visible. Voilà, pour ceux que ça intéresserait, Rao Jingfang va faire une séance de dédicace assez courte malheureusement parce qu'elle va devoir repartir en Chine tout à l'heure, donc elle a son avion qui l'attend en début d'après-midi, donc voilà, mais je vous invite à la retrouver à la librairie des Utopiales et je vous souhaite à tous de bonnes Utopiales.